Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Droit de parole. Aujourd'hui, j'ai un invité chouchou, Dominique Trudel. Bonjour Dominique.
Bonjour Maïla.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour commencer, je te laisserai te présenter pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas.
Oui, avec grand plaisir. À la faculté, mon rôle, c'est d'être la conseillère en emploi et en développement professionnel. À la base, là, souvent les étudiants, ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon poste, il relève d'une autre entité sur le campus. Donc, mon poste est attitré à ce que l'on appelle le service du développement professionnel. Et c'est de là où, par exemple, tous les étudiants pourraient consulter le site web puis voir des affichages de postes. C'est cette entité-là. Et au service du développement professionnel, on est une équipe de 24 conseillers en emploi. Ce que ça veut dire, c'est que tous les étudiants qui sont sur le campus ont, dans leur propre parcours académique, une personne, comme moi, qui a l'expertise du domaine. Alors, à la faculté de droit, c'est moi qui est attitrée à tous les cycles, donc certificat, bac, maîtrise, doctorat. Et en plus, je suis dans le même pavillon que vous autres. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment le fun parce que je suis sur place. Puis, je fais principalement de l'accompagnement en individuel. Fait que moi, Maïla, avec les étudiants, ce que je propose, c'est des rencontres d'une heure qui sont confidentielles, où on prend le temps de parler d'où on en est dans ses études, mais surtout, où est-ce que ça peut nous mener au niveau professionnel. Puis moi, mon mot d'ordre, c'est proactivité. Fait que des fois, les étudiants, ils me disent, je suis en première session, première année, la carrière, on peut-tu attendre avant de parler mm-hmm. de ça? Ma réponse, c'est non. mm-hmm. Non, parce que plus on se prépare d'avance, plus on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, l'objectif de ma présence à la faculté, c'est ça.
Excellent. Puis, carrière, ça englobe beaucoup de choses. Tu sais, oui, tu es là pour les stages, pour les domaines de droit qu'on veut faire, pour tout ce qui est emploi, mais aussi pour les CV, comment bien se présenter, comment aller à une entrevue et plus encore même. Fait qu'est-ce que tu veux peut-être, principalement, là, pourquoi les étudiants viennent te voir?
Ah oui! Écoute, la carrière, c'est large. Des fois, j'utilise un mot moins bien compris, employabilité, tu sais. en fait, je te séparerais ça en trois points différents. Puis c'est les trois priorités, en fait, sur lesquelles travailler quand on pense à la carrière. Pis la première chose, c'est souvent la plus négligée, c'est le fait de bien se connaître. Mm-hmm. La connaissance de qui on est. Puis c'est surtout en droit, là, vous allez être votre propre outil de travail, puis vous allez interagir avec des clients, avec des collègues, fait que bien se connaître. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. La deuxième chose, c'est la connaissance du marché. Tu sais, la fameuse phrase, là, Maïla, « Ah, le droit mène à tout! Mm-hmm. » Wow! OK, question carrière, le droit mène à tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais encore!
Donc, les nombreux domaines de pratique, tous les secteurs d'activité, on regarde ça en avance, soit par l'intermédiaire du guide carrière en droit ou via à peu près les 150 activités carrières qu'on organise dans une année à la faculté. Et le troisième élément, c'est les outils et les stratégies. Fait que avoir une bonne lettre de présentation, hein, c'est pas si simple que ça à rédiger.
Et c'est différent. C'est différent ta lettre de présentation que tu as faite en secondaire 5 pour une job étudiante, puis une lettre de présentation pour appliquer dans un cabinet de notariat ou d'avocat. Fait que c'est pas la même chose. Puis souvent, on sait pas. C'est quoi? C'est nouveau. Probablement que c'est la première fois qu'on le fait si on est à l'université. Fait.
Tellement. Puis ça, c'est si on en avait fait une lettre de présentation pour une job d'étudiant. Le CV. Hein? Le CV, oui, on l'a peut-être utilisé pour une job dans une boutique au centre commercial, mais est-ce que c'est le même CV quand on décide d'avoir un emploi d'été en droit? On peut regarder mm-hmm. ça. Après ça, tout ce qui est stratégie de préparation à l'entrevue. Qu'est-ce que je dis, ma posture, quelles questions on va me poser, comment je me prépare à ça. Alors, c'est les trois thématiques, là. La connaissance de soi, la connaissance du marché, les stratégies, les outils, là. C'est beaucoup au travers de tout ça qu'on passe, là, au courant d'une année.
Fait que, tu sais, ce qui est vraiment intéressant pour les étudiants de la faculté de droit, c'est que, des conseillers en orientation, il y en a partout. Tu peux en consulter une tu sais, de manière privée ailleurs qu'à l'université, mais ici, on a toi, qui est gratuite, et en plus, spécialisée dans notre domaine, parce qu'on va se... Le problème que tu dois le savoir, vu que je sais que tu n'as pas toujours été à la faculté de droit, on doit avoir quelques spécialités qui diffèrent de d'autres domaines, même si le CV et la présentation, c'est commun. Le problème que nous, on a certaines choses qui diffèrent de d'autres CV pour un autre... domaine d'études.
Exactement. C'est tellement important ce que tu viens de dire, là, Maïla, parce que dépendamment des secteurs d'activité, il y a des entreprises qui pourraient demander un one-pager comme CV, fait que tu résumes tout, tu mets aucun détail. Mais moi, ce qui est important que je vous dise, c'est que non, 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 pas le one-pager en droit, parce que c'est pas ça que les employeurs y veulent. Fait que l'avantage, effectivement, c'est ça, c'est que mon expertise, c'est de connaître les domaines vers lesquels vous allez vous diriger. Le service, il est gratuit, en quantité illimitée, en plus, tout au long du parcours. Il est confidentiel. Mon engagement de confidentialité avec vous, il est toujours là. Puis j'accompagne même jusqu'à 2 ans après graduation. Je trouve que c'est quand même important de le dire.
Bien oui, certainement. Fait que ça veut dire que si on sort du barreau ou autre, on est mélangé, on pensait qu'on savait où est-ce qu'on allait, puis on est un petit peu perdu. T'es là pour nous encore. Puis en plus, tu nous connais parce qu'on t'a probablement consulté avant qu'on se rende là. Fait que... T'sais, c'est vraiment le fun d'avoir une conseillère attitrée qui est experte dans le domaine puis qui est là pour nous suivre pendant et après.
Ben oui, puis mon engagement vers vous, c'est d'être authentique. T'sais, des fois, peut-être que vous allez avoir des questions, puis la réponse, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez entendre, parce que l'intégration professionnelle, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais je suis toujours honnête, je connais pas tout, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais on fait un travail en équipe aussi. T'sais, quand on se rencontre, on se donne un petit plan de match, on regarde c'est quoi tes questions, c'est quoi tes besoins. S'il y a des réponses qu'on n'a pas pendant la rencontre, c'est pas grave. Chacune de nous deux, on va faire des petits devoirs, on va faire des petites recherches chacune de notre côté, puis on va revenir l'une vers l'autre. Puis t'as dit un bon point sur lequel j'ai le goût de revenir, c'est que ça se peut que tu changes d'idée dans ton parcours. Tu sais, comme par exemple, tu pourrais dire « Hey, moi, Dominique, là, c'est sûr que j'ai le focus sur telle chose. » Et là, je te dirais « Ben, va trouver une job d'été là-dedans, va l'essayer un été. » Et là, tu pourrais revenir en septembre à la rentrée d'automne puis me dire « Hey, Dominique, là, je suis découragée. Je pensais que je vais trouver ce que je ferais, puis c'est pas ça. Je l'ai testé, j'ai pas aimé ça. » Ben, sais-tu quoi, c'est pas grave. Parce que l'idéal pour moi, là, c'est d'essayer, c'est de se mettre dans l'action. Aller tester des choses, parler à des gens, essayer. Puis le cheminement professionnel puis la gestion carrière, là, c'est même tout au long de la vie. Fait que ça se pourrait que de ta job d'été, ce soit pas ça ton stage du barreau si tu décides d'aller au barreau. Et du stage du barreau, si tu étais sûre d'avoir trouvé ce que tu voudrais puis que finalement, c'est pas ça, bien, tu l'as bien calculé. 2 ans après graduation, je suis encore là. Toujours fait que là. Même après le stage du barreau, si on est dans des impasses, on continue de travailler ensemble pour trouver ce qu'il y en a pour vous autres.
Puis, tu sais, si je cite Daniel Gonner, le directeur de programme, je pense que 80 ou 90 des étudiants ne finissent pas là où ils croyaient aller. Dans le sens que si je pense que moi, dans deux, trois ans, je vais être dans tel cabinet, je vais faire tel droit, bien, 90 des étudiants, ils sont pas là. 5 ans plus tard, ils sont ailleurs complètement. Fait que ça peut être très utile de savoir que tu es là pour nous, malgré tout.
Bien, c'est une bonne statistique que tu donnes là, parce que souvent, dans mes consultations, j'entends une chose, je te le partage, comme ça, là.
Parfait.
Les étudiants, ils pensent souvent que tous leurs amis puis tous leurs collègues de classe autour, là, ils sont fixés sur ce qu'ils vont faire dans la vie, puis qu'ils savent, puis qu'ils sont alignés, puis qu'eux autres, là, c'est les seuls à pas savoir ce qu'ils vont faire dans la vie. Fait que le premier conseil que je vous dirais, c'est fiez-vous pas trop sur les apparences. Parce que des fois, ça se pourrait qu'effectivement, les étudiants soient alignés sur quelque chose qui les allume beaucoup. Mais le 85-90%, là, je le trouve assez réel.
Ben, tu sais, je sais pas si c'est des statistiques vérifiées, là.
On cherchera
mais
pas.
Non.
Scientifiquement, on cherchera
non,
pas.
Non, c'est ça. Mais... Tu sais, je pense que c'est quand même la norme en droit qu'on pense qu'on aime quelque chose, mais tu sais, au final, on a fait 2 cours là-dedans, on s'en va essayer, finalement, ça se peut très bien qu'on... Tu sais, il y a tellement de domaines de droit que je pense que c'est un enjeu dans notre domaine d'études d'essayer de vouloir toucher à tout. Il y a plein de domaines qu'on touchera juste pas si on fait pas d'activités ou de conférences autres, parce qu'on peut pas avoir des cours en tout, on n'a pas le choix d'avoir une base, puis après ça, ça y va à option. Fait que, tu sais, je pense à droit de la construction. Ben ça se peut que tu n'en fasses pas de ton bac, puis finalement, c'est un domaine de droit que tu aurais adoré. Fait que je trouve que c'est quand même un enjeu pour nous de savoir comment on fait pour savoir ce qu'on aime. Il y a tellement de choses, comment où qu'on se garoche.
Ben, tu sais, si tu fais juste regarder dans le bottin des avocats, là, du barreau, là, puis tu fais vraiment une recherche par domaine, là, tu vas la défiler longtemps, ouais. La liste. Puis là, si tu fais le lien entre les domaines dans la liste de domaines de pratique puis les domaines de cours que vous avez, ce qui va arriver, c'est exactement ce que tu viens de dire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des domaines qu'on ne couvre pas au niveau de l'académique. Puis est-ce que c'est un problème? Bien, à prime abord, on pourrait penser que oui. Imagine le flou que ça fait vivre à un étudiant de dire « Bien là, je ne peux même pas m'imaginer aller travailler dans un domaine que je n'ai même pas eu de cours. Comment je vais être capable de travailler là-dedans? » Mais c'est l'ensemble mm-hmm. de l'acquisition des connaissances que vous faites dans votre cours qui vous prépare à réfléchir, à collaborer, votre sens de l'analyse développe, votre sens de votre sens critique se développe, mm-hmm. vos habiletés rédactionnelles se développent. Mais le reste, là, de l'expertise, vous allez l'apprendre en stage, puis vous allez l'apprendre dans le marché du travail après. Mm-hmm. Puis l'ambivalence décisionnelle, on a un petit peu de misère avec ça parce que souvent, hein, quand on parle, mettons, avec nos familles, puis qu'on se fait poser la question, « Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac en droit?
» Oui.
La question qu'on essaye d'éviter au souper de famille, bien, on dirait que pour les gens, c'est un désir de se rassurer qu'on leur réponde, « Bien, moi, je vais faire tel type de droit dans tel bureau pour que là, ils soient rassurés puis qu'ils pensent, tu sais, qu'ils pensent plus à ça ouais. après. » Mais quand on intègre un milieu, il y a tellement d'éléments. Il y a les mandats qu'on va avoir, il y a les clients qu'on va accompagner, il y a les collègues de travail, il y a le domaine qu'on s'était peut-être imaginé qui serait d'une façon puis que ça ne l'est pas. Puis même, je dirais, d'un bureau à l'autre, on peut avoir beaucoup de plaisir dans un puis pas mm-hmm. du tout se sentir à sa place dans l'autre. Fait que je pense que le message à donner aux étudiants, là, Maïla, c'est ayez le courage de vous écouter, de vous respecter, essayez des choses, et si c'est pas ça, la carrière va être longue, hein?
Ouais.
Ben oui. Si on se décide pas à relever nos manches puis à bouger, si on sent pas qu'on est à la bonne place, on risque d'être malheureux assez longtemps. Fait que il faut plus se voir comme un essayeur, comme un explorateur d'opportunités.
Puis tu sais, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens de mon entourage qui connaissent rien au droit. À chaque fois, ils me demandent « OK, t'étudies pour faire quel type de droit? » Je suis comme « On est formé pour... on apprend de tout. » Tu sais, on n'est pas spécialisé dans un type de droit. Mm-hmm. Puis on dirait que les gens n'ont pas cette connaissance-là. Fait que, tu sais, si notre bac est construit de cette façon-là, c'est sûrement pas pour rien. Justement, le but, c'est pas qu'on rentre au bac, qu'on choisisse un domaine puis qu'on soit spécialiste dans ça. C'est de toucher à tout parce que ça va être ça plus tard aussi. On apprend, comme tu disais, une base, comment travailler, relations d'équipe, comment interpréter la loi, comment l'analyser. Mm-hmm. Puis après ça, avec ça, bien, on peut se tromper parce qu'on peut tout faire. Après, on est capable d'aller ailleurs. Fait qu'on a la chance de, justement, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si t'essayes quelque chose que t'aimes pas, c'est pas grave si tu fais ton stage du barreau dans un domaine que finalement tu veux switcher après. Fait que ça, c'est quand même une chance qu'on a.
Bien, c'est la polyvalence du parcours parce que, tu sais, si on fait le comparable avec sciences et génie, mettons, mm-hmm. bien, les gens qui sont en ingénierie vont faire génie civil ou génie construction ou génie mécanique. Nous, le bac, là, il n'est pas comme droit de la santé, ouais, droit des exactement. Affaires, droit criminel et pénal. Donc, tout le monde passe par le même cheminement parce que le droit, c'est il y a tellement de cours en plus que tout le monde devrait suivre. Mm-hmm. Même si on ne faisait pas le bac en droit, hein, on serait dans une société tellement allumée puis bien nourrie puis tout ça. Mais c'est vraiment pour aller chercher l'ensemble des connaissances que le domaine de pratique exige. Et après ça, là, faites confiance que de par votre détermination, votre ambition, de par vos dominances de personnalité, puis ce qui va... Moi, j'appelle ça les « wow » qui se placent à un moment donné dans la vie, de dire « Oups, OK, je découvre ça qui est vraiment intéressant, puis je m'y investis jusqu'à ce que ça fasse plus, puis qu'on essaye autre chose. » Le milieu des affaires, il va être ouvert à ça, puis à ces transitions-là. On n'est plus, là, Maïla, aujourd'hui, dans un monde du travail où est-ce que tu trouves ta job à 21 ans, là, puis tu prends ta retraite de là, ouais. dans la soixantaine. C'est vraiment plus ça, là.
Fait que tu me rassures, moi et nos internautes, en me disant que si j'essaie un domaine, que je travaille dans un cabinet, puis que finalement, j'aime pas ça, puis j'ai envie de changer, mon CV est pas gâché, puis les employeurs ne voudront pas de moi, vu que j'ai déjà travaillé dans un autre cabinet. On a le droit de faire ça, c'est correct.
Exactement. Vous n'aurez pas gâché votre vie, ayez pas peur à votre réputation, vous ne serez pas étiqueté. La seule chose qu'il faut retenir, c'est, tu sais, être fière d'avoir essayé quelque chose, puis prendre conscience que c'est pas pour nous, c'est très mature, ça, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est d'agir pour soi et pour son employeur de façon très professionnelle, d'essayer des choses pour, après ça, se diriger vers ce qu'on aime le plus. Tu sais, je veux pas me donner un exemple, mais quand même, je pourrais me donner un exemple.
Ben oui!
Parce que...
On en a déjà parlé, là. Moi, j'ai trouvé ça super inspirant, puis tu sais... En tout cas, moi, j'ai aimé que tu me partages ça, là. Fait que, vas-y, là.
À titre de comparable, là, moi, quand j'ai fait mes études en orientation, j'étais très, très attirée par le monde de la consultation. Moi, le milieu privé, le milieu de cabinet privé en RH, et non pas en droit, mais le parallèle est quand même faisable. J'étais très attirée par ça, le monde du réseautage. Je m'étais acheté un tailleur à 75 % de rabais chez Dynamite, puis là, je le mettais tout le temps. J'étais tellement fière! Puis j'allais te serrer des mains, puis j'étais bonne, puis pas, puis je me suis améliorée là-dedans. Et j'ai fait un bout dans la consultation dans deux bureaux différents. Le premier, j'aurais peut-être pu faire carrière là. Après 5 ans, c'était pas ça. J'aurais pu m'associer. Finalement, ben c'était pas ça. Change de bureau, après ça fait du recrutement, devient chasseuse de tête, jusqu'à ce qu'une opportunité, par tout le réseautage que j'avais fait dans ma vie, qu'un jour, quelqu'un m'appelle pour me proposer une opportunité à l'Université Laval. Et à l'époque de mes études, c'est très drôle parce que jamais je me serais dit que je travaillerais dans une école puis pas à l'université. Et j'y suis aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Pourquoi? Parce que le travail que je peux faire en accompagnement avec vous aujourd'hui, là, bien, ce que j'ai fait dans la consultation au départ, là, tout le réseautage que j'ai appris à faire sur le tas, bien, je vous le coach aujourd'hui puis je peux me permettre de vous expliquer à quoi ça sert. Le recrutement que j'ai fait, j'étais assise de l'autre côté de la table à évaluer des candidats. Ben aujourd'hui, je vous le dis, qu'est-ce qu'on évalue? Et l'université est arrivée par après. Donc, quand je disais tout à l'heure, le cheminement de carrière, c'est tout au long de la vie. Si vous croyez en vous, là, les objectifs et les opportunités vont se placer là, pratiquement par elles-mêmes.
Exactement. Puis la personne qu'on est à 20 ans, on sera peut-être plus là à 35 ans. Là. Ça se peut qu'on ait besoin d'autre chose, de nouveautés, de changements. Puis, ça, c'est une chose que j'ai pu constater avec les avocats. On a souvent des 5 à 7 ou des petites... Puis, souvent, quand tu parles à un avocat, il a pas commencé où ce qu'il est, là. Il a fait autre chose avant. Puis, j'ai un avocat qui m'avait déjà dit que... Je pense qu'il avait commencé dans le droit des affaires. Puis, en tout cas, il avait changé de carrière. Puis, au final, il a amené des choses à son équipe de travail grâce à son ancien emploi. Il a réussi à amener une dynamique différente, des connaissances différentes. Puis... son compagnon avec qui il travaillait souvent, mais lui, il arrivait d'un autre domaine. Fait qu'à deux, ils étaient une team de feu parce que leur background les aidait à faire ce qu'ils faisaient maintenant. Fait que c'est pas parce que t'es dans un autre domaine de droit que ça te servira à rien, mais que tu changes. Tout est relié. Fait que, tu sais, nous, on a cette chance-là. En plus, comme toi, tes expériences t'ont été utiles à où ce que t'es aujourd'hui, bien, on peut que se dire ça, nous aussi, là.
Ben exactement, exactement. Il faut profiter des opportunités. Puis c'est tellement facile de se taper sa tête, hein?
Mm-hmm.
Puis de se dire, il faudrait que je trouve tout de suite, tu sais, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Tu sais, des fois, je le dis à la blague, là, mais j'ai toute la vie, mais moi, je sais même pas ce que je vais faire en fin de semaine. Donc, imaginez dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ça, c'est ce qui vient un peu brouiller les cartes, c'est les fameuses questions à l'entrevue où on se fait poser la question, mais tu te vois où dans 5 ans? Puis tu te vois où dans 10 ans? On dit, je le sais pas vraiment. Fait que l'idée, là, c'est vraiment juste de se rassurer en se disant, bien, le temps qu'on est dans l'académique, là, le parcours d'études, là, il est là pour vous éveiller sur des choses que vous connaissez pas. Puis, tu sais, j'en ai rencontré plein, hein, Maïla, des étudiants, là, qui étaient à leur dernière session de parcours de bac, puis ils étaient découragés parce qu'ils se disaient, bien, je vais-tu finir par trouver? Puis à un moment donné, c'est à la 12e semaine de cours de la dernière session, le prof a donné un bout de théorie avec un exemple de quelque chose, et wow! C'est apparu là, l'idée de faire un truc qu'on ne savait pas qui existe, puis qui est devenu un objectif de carrière. Fait que le fait que le baccalauréat, ce n'est pas à développement d'une expertise, c'est parce qu'il faut aussi être patient à le faire. Puis il faut se dire que les 99 crédits qu'il faut qu'on fasse, là, ben ils sont nécessaires. Puis la petite étincelle, elle va peut-être arriver au début, puis c'est super si c'est ça. Elle va peut-être arriver au milieu, puis elle va peut-être arriver à la fin. Puis il va peut-être avoir plein d'étincelles, dans le sens où peut-être que vous êtes des étudiants qui aimez tous vos cours, puis c'est correct aussi, puis il y en a que c'est pas ça. Fait que le cheminement, le parcours, puis tout le temps se recentrer sur qu'est-ce que nous autres, on aime, c'est vraiment une priorité.
Puis niveau carrière, là, mettons, qu'on le wow, il peut arriver à tout moment, bien, comment tu vois ça, toi, pour des étudiants qui viennent te consulter, qui sont en première, deuxième, troisième année, puis ils sont comme, OK, mais là, j'ai pas de wow, mais là, niveau carrière, est-ce que je dois avoir un emploi, ou est-ce que j'ai... Tu sais, comment tu deals avec la carrière, les stages, ces affaires-là, puis peut-être que j'ai pas de wow, peut-être que je suis pas certaine de ce que je veux faire, je sais pas trop encore.
Ah, c'est tellement une bonne question. Merci de la poser, vraiment, parce que...
C'est un peu pour moi. C'est une joke.
C'est pour tout le monde. Mais en fait, moi, tu sais, si on est actuellement en première session, première année, là, ben c'est de se le dire tout de suite que le « wow », il peut apparaître à peu près n'importe quand. Mm-hmm. Puis l'idée, là, quand on parle de l'expérience étudiante, là, à la faculté de droit, ben ça veut dire... Le parcours académique, ce que vous entendez dans les cours, puis, tu sais, soyez éveillés à dire peut-être que c'est un prof qui va être inspirant, peut-être que c'est la question d'un étudiant qui va être inspirante, peut-être c'est un bout de théorie, mais aussi, là, c'est de se donner des occasions de découvrir, sortir un peu de chez soi, puis vivre la vie étudiante. Fait que regardez l'AED Diffusion que tu publies à tous les dimanches. C'est tellement important parce que là-dedans, il va y avoir des activités. Vous allez peut-être vous dire, « Ah, oh, il y a une conférence sur telle thématique. Je connais pas ça, mais on dirait que ça pique ma curiosité. Mm-hmm. » Allez vous asseoir dans des salles puis écouter des gens qui viennent de l'extérieur. Ça complète la théorie de l'académique. Les profs, là, ils peuvent pas tout couvrir. Fait qu'on garnit la vie étudiante avec des événements comme ça pour que les gens du milieu, ils viennent vous ouvrir un peu les yeux par rapport à ça. Puis c'est aussi d'avoir un petit peu de courage, tu sais. Allez-y dans un premier cocktail, dans un premier réseautage, parce que c'est peut-être une discussion en face-à-face avec quelqu'un qui va apparaître. Parce que, tu sais, tu disais, mettons que tu n'as pas de « wow », qu'est-ce qui se passe? Bien, le « wow », c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui serait inspirant pour nous. Oui. Tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui fait une job d'une façon qu'on trouve cool, puis qu'on n'a pas personne à qui on voudrait ressembler, il y en a pour qui c'est embêtant aussi.
Bien, vraiment. Puis les événements, si, admettons, il y a une soirée qui est spécialisée sur le droit de la santé, puis tu t'y connais pas trop, tu sais pas trop c'est quoi, tu y vas, mais là, tu as la chance de parler avec des professionnels que c'est leur réalité, qui c'est ça qu'ils vivent à tous les jours, puis en plus, qui sont passionnés. Fait que, tu sais, ça peut être différent d'un cours théorique. Bien, là, je ne suis même pas certaine si on a un cours de droit de la santé, là. Mais ça peut être différent d'un cours que tu es assis, puis que tu étudies, puis que, tu sais, c'est plus théorique, puis d'un professionnel qui pratique, qui est passionné, puis qui transmet un peu sa passion en jasant. Bien, tu sais, le « wow » peut peut-être plus arriver là qu'en rushant ta vie, en prenant des notes dans une classe, tu sais.
Oui, exact.
Comme tu dis, c'est quand même important d'y aller, de voir, de parler avec des gens, parce que la théorie et la pratique, c'est pas nécessairement la même chose. Puis, c'est ça.
Oui, puis, tu sais, il y a une autre chose que j'ajouterais, c'est que des fois, là, ce qui est le repère, c'est de regarder dans quoi vous êtes bon. Qu'est-ce que vous faites facilement que vous avez l'impression que vos collègues de classe trouvent difficile ou plus difficile que vous? Je te donne un exemple. On a plein d'étudiants à la faculté là, qui ont des habiletés de rédaction là, vraiment bonnes. Là. C'est des étudiants qui vont faire la recherche dirigée avec beaucoup de plaisir. C'est des gens qui vont espérer avoir des travaux de session à écrire parce qu'ils sont bons là-dedans. Bien, il y a des liens à faire avec la carrière parce que souvent, on se dit « Ah, ben on va penser les bureaux d'avocats, on va penser la plaidoirie, on va penser la communication puis le lien relationnel. » Mais il y a des étudiants qui se cherchent parce que c'est la réflexion puis la rédaction. Bien, ça, là, des fois, ça peut donner une idée que c'est des étudiants qui devraient peut-être aller au cycle supérieur. Puis c'est peut-être une maîtrise qui va te donner ton effet « wow ». Fait que des fois, quand on est dans le bac, on se cherche puis on trouve pas, là, bien, c'est peut-être parce qu'on est juste dû pour aller à un niveau complémentaire en maîtrise et que c'est là que les skills de rédaction de un sont attendus puis sont vraiment pertinents. L'autre chose, des fois, c'est d'explorer un petit peu plus loin. Quand on regarde, par exemple, la magistrature, là, t'sais, aller travailler pour les juges, là, ben, c'est beaucoup, beaucoup de la rédaction, c'est beaucoup des habiletés comme ça. Fait que l'autre truc que j'aurais, là, c'est regarder qu'est-ce qui vous distingue. Ce que vous faites facilement, là, dans vos études, d'habitude, c'est des forces. C'est ce qu'on appelle vos compétences. Et quand on fait quelque chose facilement, là, avoue qu'on n'a pas l'impression que c'est distinctif parce qu'on se dit, ben,
non, c'est facile.
Si c'est facile, bien, qu'est-ce que tu vas te dire? Si c'est facile, tout le monde le fait. Et la réponse, c'est non. Fait que c'est là aussi où des fois, là, je te dirais, quand on est dans le flou de même, là, puis qu'on ne sait pas trop, là, faire un temps d'arrêt, là, se faire une petite tisane ou un bon café, là, puis réfléchir à soi, puis se faire la liste de ce qui nous définit.
Ça revient à ton point de tout d'abord apprendre à se connaître.
Exactement. Exactement. Puis des fois, notre réponse est là. Des fois, on a des grosses ambivalences à trouver des domaines de pratique, mais c'est parce qu'on se rend compte qu'on ne veut pas de clients humains. On aimerait mieux travailler avec des dossiers. C'est simple, hein?
Eh oui.
Mais c'est des questions qui sont importantes à se poser, mais de par votre dominance de personnalité, puis ce dans quoi vous êtes bien, elle est là des fois, la réponse. Puis il y a un document, là, qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui consultent, mais il a. Le guide carrière en droit. Oui. Le guide carrière en droit, là... Pour commencer, là, regardez cet outil-là.
Où est-ce qu'on peut le trouver?
Moi, Google, Guide carrière en droit, Université Laval, il est là. Il est sur le site web de la faculté aussi. Il est sur le site web du service de développement professionnel. Mais googlez Guide carrière en droit, Université Laval, vous allez le trouver tout de suite. Et là, on dresse un très, très gros portrait sur l'ensemble des possibilités du marché. On parle même des carrières à l'international. On démystifie avocat versus notaire. Peut-être que le point de départ, ce serait lire le guide.
Mais vraiment, c'est intéressant, parfait. Bien, on vous invite à le faire, puis on pourrait peut-être essayer de le rendre sur les réseaux sociaux, de faire un lien pour que les gens puissent le trouver facilement.
Très bonne idée.
Ou le mettre, je vais faire ça, je vais le mettre en barre d'information du podcast, le lien.
Excellente idée.
Voilà, tout le monde, pas d'excuses, tout le monde peut aller le lire, le consulter. Ça va être votre petit devoir. Comme première étape. Mais comme on parlait, apprendre à se connaître, là, ça peut être utile pour la carrière parce que ça évite de faire des chemins inutiles ou de l'angoisse inutile. Exemple, là, tu disais les habiletés de rédaction, mais aussi de vouloir plaider ou pas. C'est pas tous les avocats qui plaident. Fait que déjà là, ça peut-être te dire, ah, ben c'est tel domaine, j'ai vraiment pas envie de plaider. Ben peut-être que celui-là est moins pour moi. Ou comme Garner, il dit, hey, on dirait que je suis sa plus grande fan, je fais que parler de lui. Mais Garner, il a souvent dit, parce que j'allais comme professeur, fait que, tu sais, je le vois.
Non, mais
souvent.
Il est de bons conseils.
Oui, oui, il est de très bons conseils. Puis en plus, je vais aux réunions et tout. Fait que bref, c'est pour ça que je le cite aussi souvent. Mais il dit, tu sais, peut-être que tu l'as-tu essayé? Peut-être que tu penses que tu n'aimes pas plaider, mais finalement, tu vas adorer ça. Fait que de ne pas se fermer des portes sans l'essayer. Même les cours, il disait, tu sais, peut-être qu'un domaine de droit. Il dit que ça le fait rire, les gens qui disent « Moi, je vais jamais faire tel droit. Je déteste ça. » Puis c'est quoi, t'as fait un cours, 12 semaines sur un type de droit? C'est peut-être le prof que t'aimes pas. C'est peut-être, tu sais, des fois, tu penses que t'aimes un domaine, mais c'est peut-être le prof que t'as aimé, non nécessairement le domaine. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de ne pas se fermer de porte. Justement, il disait, tu sais, si vous voulez être notaire, puis que vous voulez pas plaider, essayez de plaider, voir, avant d'éliminer ça. Puis si vous voulez être avocat, bien, allez essayer d'être notaire. Tu sais, comme dans le sens qu'il ne faut pas se fermer de porte, parce que dans le fond, souvent, on dit, ah, ça, je sais que j'aime pas ça, mais dans le fond, on sait-tu vraiment? On a-tu essayé? On est-tu au courant de tout? Qu'est-ce que c'est? Peut-être pas.
Puis des fois, on est habité par des peurs, hein? Tu sais, la plaidoirie, là, à quoi ça fait penser en premier, la plaidoirie? Les exposés oraux quand on était à l'école? Secondaire? Ou est-ce que peut-être que toi, t'aimais bien gros ça, les exposés oraux, parce que t'étais bien devant la classe puis que t'étais bonne? Moi, personnellement, dans ce temps-là, j'avais le goût là, de me cacher dans le plancher puis de disparaître pour tout le reste de la journée. Puis, dans le fond, profiter des occasions pour les développer, nos compétences. Tu sais, les cours de tribunal école, par exemple, si la plaidoirie, ça fait peur, bien, allez vous tester puis allez vous faire coacher par les profs.
Mais oui.
Puis, je pense que des fois, on se fait une idée de ce qui est attendu dans le marché. Hein, souvent, on va se dire, hey, pour être un plaideur, il faut sûrement être un extraverti, puis moi, ben j'aime pas tant ça, tu sais, parler aux gens, puis tout ça, mais la plaidoirie, dans le fond, C'est pas ça? C'est aller, tu sais, c'est intéressant de décortiquer, mais d'identifier qu'est-ce qui nous effraie, qu'est-ce qui nous fait peur, et est-ce qu'on s'empêche d'aller dans un domaine parce qu'on craint de ne pas être bon, on craint de ne pas performer tout de suite. Tu sais, il y a matière à aller se développer. Hein?
Puis cette mentalité-là, on entend souvent ça, mais plaider, on dirait que c'est une des choses qui fait beaucoup de peur aux gens. Oui. Puis, comment que... Ben, c'est un notaire qui a dit ça, là, mais tu sais, la plaidoirie, ça fait peur, mais si tu t'en vas dans le notariat pour ne pas plaider, ben ça revient au même que de faire... Tu vas parler à des professeurs, tu vas retrouver ça quand même dans le notariat, mais comme... Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se fermer des portes avec des idées préconçues, puis de bien regarder tout, puis de se laisser une chance. Plaider, oui. C'est pas un exposé oral en sixième année, c'est pas la même chose.
Mais le comparable est bon, hein? c'est nos anciennes pas bonnes performances qui nous habitent encore aujourd'hui. Mais je pense que dans tout ce que le parcours académique a à offrir, puis toutes les possibilités d'implication qu'il y a aussi, hein, à la faculté, ben les compétences dans lesquelles on se trouve un peu moins bon, on a des occasions d'aller les développer en faisant peut-être autre chose en dehors de l'académique aussi, juste pour évoluer puis s'améliorer. T'sais, tout le monde a le potentiel de réussir, là. Tous les étudiants, là, peuvent s'assurer, là, de faire briller la belle personnalité qu'ils ont puis de rayonner, mais il faut d'abord et avant tout se respecter, développer une confiance en soi, de l'assurance, puis après ça, tu sais, être ouvert à être en développement, à se placer aussi dans des situations de changement qui vont être un peu inconfortables, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, on aime ça être bon.
Effectivement.
On aime ça réussir tout de suite. Fait que se donner l'occasion, effectivement, de développer des compétences par l'expérience, c'est vraiment à considérer, là.
Puis, c'est une question que j'ai quand même déjà entendue des étudiants, là. À quel point on doit faire... Parce que, tu sais, les études, on en a beaucoup à faire, on met beaucoup de temps dans nos études. Fait qu'à quel point on devrait laisser une place aux expériences, aux conférences, aux cocktails, puis de peut-être, comme, mettre moins de temps dans notre étude, au lieu de passer ma soirée à étudier, d'aller au cocktail, à quel point on doit faire de la place pour ça?
Bien, la question est très pertinente, hein, parce que c'est sûr que si tu fais juste regarder à la base l'horaire de cours plus le temps de lecture, la quantité de lecture et toute la préparation qui vient avec, bien, on pourrait dire, bien, moi, je suis déjà pris à temps plein dans mon horaire, fait que je vois pas comment je vais être en mesure de le faire. Moi, là, ce que je dirais, c'est que la priorité, c'est de bien vous investir dans vos études. Et c'est de trouver une belle cadence, je vais le dire comme ça, là, c'est-à-dire à chaque semaine, comment tu veux vivre tes semaines d'études en arrivant un peu préparé, en ayant regardé tes choses, en ayant fait les lectures qui viennent avec, puis en sachant où tu t'en vas. Fait que tu sais, commencer à utiliser un agenda puis le respecter, c'est peut-être une bonne idée parce que, selon moi, tout est une question de gestion de son temps et de planification jusqu'à une certaine mesure. Fait que l'académique, la priorité. Après ça, bien, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu ça, toi, aller au gym? Ou t'aimes-tu ça aller faire des longueurs à piscine à 5 heures le matin? Ou t'aimes-tu ça aller voir ta famille qui est à l'extérieur de la région le samedi soir pour les voir, te grounder, puis souper avec eux autres? Puis si la réponse, c'est oui à tout ce que je viens de dire, bien, là, c'est de regarder comment je peux compléter mes études avec ce qui est précieux puis important pour moi. Fait que c'est peut-être les amis, c'est peut-être la famille, c'est peut-être le sport, c'est peut-être l'instrument de musique que vous jouez. Fait que ça prend des heures, là, dans la semaine où on se consacre à ce qu'on aime faire. Et ensuite de ça, dans la planification, bien, pourquoi pas envisager prendre quelques heures puis les investir dans un emploi étudiant, puis un emploi étudiant, j'ai pas dit en droit encore. J'ai juste dit un emploi. Pourquoi? Pour se sortir la tête un peu, justement, de ces lectures, puis ben, peut-être aller, tu sais, dans une boutique à Place Sainte-Foy ou aller servir des plats dans un restaurant quelques heures par semaine, de un, pour contribuer, pour se sentir utile, faire un peu d'argent, connaître des personnes qui sont en dehors de l'académie et commencer par ça, un emploi d'étudiant à quelques heures par semaine pour dire, bon, ben à combien d'heures je continue d'être efficace dans mes études? Mais après ça, ce que j'ai le goût de dire, c'est que ben, les étudiants en droit, ils ont un beau privilège. C'est que des emplois étudiants en droit, il y en a. Fait que une journée par semaine, deux journées par semaine pendant la session, avoir une job, c'est bien. Ou du moins, prendre l'été, un contrat étudiant. Fait que si vous ne voulez pas étudier pendant la session, c'est parfait. Regardez les contrats à durée déterminée pendant l'été, puis regardez ce qui s'offre en droit, puis essayez-le. Après ça, ben, il y a ce qu'on appelle l'engagement social ou l'implication étudiante, fait que les fameux 30 comités qu'on a à la faculté et tout autre comité du campus ou toute autre possibilité de bénévolat dans votre communauté. Bien, s'il y a quelque chose que vous aimez, hein, il y a des étudiants, moi, qui me disent, « Dominique, moi, j'aime faire du sport. » Fait que quand il y a des compétitions sportives, je vais donner de l'eau sur le bord de la route quand il y a le marathon au Québec-Lévis. Mm-hmm. Donc, donner quelques heures à des causes qui rejoignent vos valeurs puis vos intérêts, quelques heures par semaine, ça peut être aussi une bonne idée. Du moment où vous vous dites que vous vous impliquez parce que le comité travaille sur un domaine que vous aimez puis que vous allez rencontrer des étudiants qui aiment les mêmes affaires que vous, parfait. L'enjeu pour moi, c'est quand j'entends « je le fais pour garnir mon CV ». Puis, sais-tu où l'enjeu? Pour moi, là-dedans, c'est que s'impliquer, dans le fond, c'est assez simple parce que des opportunités, il y en a tout plein. Mm-hmm. Où est-ce que ça va moins bien aller, là? C'est... quand on va se retrouver en entrevue, là, puis que l'intervieweur, il va nous demander de raconter ce qu'on fait dans notre bénévolat ou qu'est-ce qu'on fait dans notre comité, puis que finalement, on se retrouve à pas avoir grand-chose à raconter juste parce qu'on a voulu mettre plein de choses sur notre CV, mais qu'on n'a pas profité de l'expérience, la problématique, elle va venir plus tard, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux que les personnes étudiantes se sentent sur leurs études, fasse du sport, ça s'explique en entrevue, ça, qu'on mais a oui. voulu donner du temps à ses études. Puis quand vous allez commencer à ajouter des choses, faites-le parce que vous sentez que vous êtes capable de le faire. Est-ce que de ne pas être impliqué, ça va vous empêcher d'avoir accès à des opportunités? La réponse, c'est non. Parce que c'est l'ensemble de votre dossier de candidature qui est considéré. C'est autant, on regarde le relevé de notes, on regarde d'où vous venez, où est-ce que vous êtes allé à l'école, ce que vous avez fait comme job. Puis tu sais, ça peut être flipper des boulettes de burger au Costco du coin de la rue, là.
Puis... la fameuse histoire qu'on entend à tous les 5 à 7, que je pense que c'est un cabinet où il y avait des notes, genre, il y avait des candidatures de gens qui avaient des notes incroyables, puis celui qu'ils ont retenu, c'est quelqu'un qui n'avait pas des notes incroyables, qui n'avait pas un CV garni, mais qui avait resté, je pense, 13 ans au McDo.
Ouais.
Il était comme, bien ça, ça montre la fidélité. Mmh. En tout cas, c'est à peu près ça, l'histoire, là. Mais on l'entend à chaque 5 à 7, cette histoire-là, que tu sais, chacun... il faut juste rester nous-mêmes. Tu sais, il y a de tout. Fait que ne pas se forcer à faire quelque chose pour le CV.
Tu sais, je pense que ce qu'on se dit aujourd'hui, Maïla, là, c'est si il y a des étudiants qui nous écoutent puis qui disent « Hey, j'avais pas considéré ça, moi, l'implication, ou je savais pas que ça pouvait être pertinent ou quoi, et que ça fait un petit « wow » puis un élan de le faire, ben let's go! » Tu sais, soyez à l'écoute de vos intérêts, puis faites-le. Mais si vous dites « ben moi, j'aime mieux aller travailler au restaurant parce que j'ai des pourboires, puis le salaire me permet de payer mon appart, puis pour moi, je suis bien là-dedans. » Mais quand les employeurs vous rencontrent là, dans les soirées cocktails, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rencontrer des étudiants qui sont vrais, qui sont honnêtes, puis que, tu sais, si tu parles du pub où tu travailles, là, bien, la petite étoile que tu vas avoir dans tes yeux, puis le sourire que tu vas avoir au visage, là, de raconter le fait que tu aimes tellement ça, être en service à la clientèle en ce moment... bien, les employeurs vont aimer beaucoup mieux embaucher une personne comme ça qui trippe sur ce qu'il fait puis qui sait pourquoi il le fait beaucoup plus que quelqu'un qui a investi tout son temps à se construire un dossier pensant que ça allait être ça que les employeurs voulaient avoir. Là.
C'est ça. Puis ils savent, bien, pour avoir été de l'autre côté de la table, j'imagine, bien, ce que tu peux corroborer ce que je vais dire, mais ils savent... quand on dit quelque chose pour leur faire plaisir, ils savent quand on dit quelque chose qui est vrai.
Tu sais, si, mettons, tu vas à un tailgate en fin de semaine avec des amis, là, puis il y a des gens qui sont là que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, là, puis qui te disent, là, un peu des choses, là, parce qu'ils savent que ça fait plaisir, comment tu vas te sentir? C'est bizarre, hein? Ouais. C'est, regarde, ouais. Là, t'es comme un peu... Ben, j'ai pas tant le goût.
Ouais.
C'est pas tant le fun. Puis là, tu vas te poser la question, mais pourquoi on fait pas juste jaser pour jaser plutôt que de me sortir, là, tu sais, les phrases toutes faites que tout le monde veut entendre? Tu sais, en recrutement, c'est exactement la même chose. Tu sais, faut pas oublier que les recruteurs en droit, là, c'est des anciens étudiants de la faculté. En plus, fait que ils sont passés par la même, tu sais, le même chemin que vous, ils sont passés par les mêmes opportunités que vous, puis ben la base de la confiance là entre un employeur et un candidat, puis moi quand je faisais du recrutement, c'était exactement la même chose. C'était ça s'établissait sur l'honnêteté dès le premier contact. Puis si on a l'impression que dans l'échange ce qui est dit, c'est non pas pour être en mode « je me présente à vous », mais c'est plutôt « je vous dis ça parce que je pense que ça va vous faire plaisir », bien, tu sais-tu quoi? Comme employeur, là, on est même déçu de ça parce qu'on se dit « mais pourquoi la personne n'est pas transparente? » C'est tellement intéressant de parler avec quelqu'un de ce qu'il fait puis de ce qu'il aime vraiment plutôt que le discours préparé en fonction de me dire ce que je veux entendre. Puis, tu sais, sous-estimez pas notre expérience. Mm-hmm. Quand on utilise cette stratégie-là, on le voit. On le voit. Puis comme je le dis, je le redis, on est déçus dans ce temps-là parce qu'on se dit, si on est juste en activité de réseautage et le discours, il n'est pas vrai, bien, moi, quand je vais travailler avec toi, là, ce qu'on va se dire, ça va-tu être vrai? Tu sais, pensez à ça. Fait que plutôt que de toujours adresser des choses dans l'intérêt de plaire, puis dans l'intérêt de dire la bonne ligne, la bonne phrase, le bon mot au bon moment, juste être là, puis authentique, ça vous fait gagner vraiment plus de points.
Puis j'ai l'impression que c'est un peu dans les deux côtés pour avoir, mettons, réseauté un petit peu, là, du haut de mes deux années à la faculté. Bien, il y a des cabinets où ce que, justement, c'est moins naturel. On dirait que bien, profiter de comment, justement, votre niveau t'sais, j'ai déjà fait des entrevues où ce que j'étais super à l'aise, puis que zéro problème à parler, puis ça coulait bien. Bien, c'est peut-être un signe que, justement, bien... Des deux côtés, ça clique, puis des cabinets où c'est moins fluide, ben peut-être que c'est un signe que... Fait que, tu sais, même pour vous, tout dépendamment comment vous vous sentez, ça devrait être naturel de vouloir juste discuter, d'être honnête, puis que ça coule à flot et non stressé de pas dire le bon mot. Puis, tu sais, est-ce que tu as le goût de faire une carrière dans un cabinet où tu es vraiment stressé de tous les mots que tu vas dire ou tu as envie d'avoir... Bref, fait, des deux côtés, autant pour l'employeur, j'imagine que lui, c'est ce qu'il recherche chez un employé, puis autant vous pouvez utiliser ça pour... la connexion un peu ou le niveau de... Bref, je sais pas
si... Tu sais, c'est de trouver quelque chose qui nous unit, hein? Mm-hmm. C'est le lien. Tu sais, des fois, on dit c'est le fit. Ouais.
Ben, c'est alors, ça.
Le fit, il se place sans qu'on le prévoie, ben, tu sais, sans qu'on le prépare. Mais je pense que l'idéal, c'est de dire aux étudiants qui nous écoutent que aller en activité de réseautage ou aller en entrevue, là, c'est juste d'aller échanger, en fait, avec une autre personne. C'est sûr que l'entrevue, c'est une interview, là, on comprend, on se fait poser des questions, fait que c'est pas tant un échange, là, je comprends. Vous allez me dire, ben non, Dominique, là, les employeurs, ils échangent pas, ils nous interrogent. Bien, on pose des questions pour vous faire parler. C'est un peu ça, la base, tu sais, de l'échange. Puis l'idée, bien, c'est plutôt de voir ça comme... développer l'art de donner accès à vous. Mm-hmm. C'est l'art de se présenter, tu sais. Des fois, j'entends des personnes qui me demandent, tu sais, Dominique, c'est quoi la bonne façon de commencer mon pitch, puis c'est quoi la façon de garder l'attention sur moi le plus longtemps que je peux, puis c'est quoi... Mais juste d'être vous-même, c'est beaucoup, mais... Tu sais, l'erreur qu'il y a là-dedans, là, c'est qu'on pourrait se dire, bien, si on veut pas que ce soit stagé, c'est mieux de rien faire pantoute avant d'y aller pour être vraiment, vraiment soi-même.
Pas nécessairement.
Puis pour quelles raisons? Pas nécessairement.
Ben, c'est qu'il y a des facteurs qui embarquent, là. Le stress, justement, de chercher ses mots, de pas savoir quoi dire. Au confinement, ça va terminer que t'es pas toi-même parce qu'habituellement, tu sais ce que tu dis, tu sais, t'es à l'aise, puis t'es plus... Bref.
Tu sais, si on est dans un cocktail, là, puis que je suis une avocate... avec qui tu as le goût de parler parce que je suis dans le bureau où tu souhaites déposer ta candidature pour ton stage du barreau, là. Ça se peut-tu que quand tu vas te retrouver devant moi, là, tu vas être inspirée et puis tu vas être contente, puis là, tu vas être remplie d'adrénaline,
oui.
puis d'excitation, puis de joie, puis là, tu vas en perdre un peu tes repères.
Mm-hmm.
Oui, ça se peut, parce que c'est juste un beau moment. Fait que moi, dans ça, ce que je dirais, c'est la préparation fait foi de tout, tu sais. Quand est-ce que c'est arrivé, Maïla, la dernière fois, là, ou au souper de famille du week-end, là, que le sujet de conversation, là, c'était toi?
Ouais. Pas récemment.
Tu sais, peut-être qu'on a parlé de ta semaine, peut-être qu'on a parlé des cours dans la semaine, peut-être qu'on a... Mais pensez-y, là. Tu sais, quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois où le sujet de conversation, c'était vous, tu sais? Ça l'arrive pas, là. Mm-hmm. Et pourtant, aller en réseautage, parler avec des gens qui nous inspirent, mais qu'on connaît pas, ça nous demande de parler de nous. Fait que on est très, très à l'aise de parler des choses qu'on maîtrise beaucoup. Le sport que t'aimes, là, moi, je pourrais te poser plein de questions, puis tu vas m'en parler, là, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais si vous êtes habitué de vivre avec vous, tu sais, comme tout le monde, ça, c'est une affaire. Penser à vous-même, c'est une affaire. Moi, quand je pense à moi dans ma tête, c'est incroyable le nombre de choses que je peux me dire. Quand je suis face à quelqu'un et que je dois le verbaliser, si vous n'êtes pas préparé, ne pensez pas que d'improviser devant des gens qui vous impressionnent, ça va fonctionner. Fait que préparez ce que vous voulez dire aux gens en avance. Ça va vraiment, vraiment faire en sorte que vous allez être plus léger
mm-hmm.
dans vos conversations, puis vous allez moins sentir la pression que vous êtes évalué pendant ce temps-là. Vous allez beaucoup plus profiter du moment. Puis, vous ferez pas juste un interrogatoire à l'autre. Vous allez parler de vous autant mm-hmm. que vous allez parler à l'autre, par la pratique.
Oui, certainement. Eh bien, j'adore ça, Dominique. Là, on parlait un peu d'entrevue. Mais qu'est-ce que tu as envie qu'on prenne une petite direction vers la course au stage, la fameuse course au stage?
Ah, on est dans le momentum, hein?
Oui,
ouais, je pense que tu as une bonne idée, là.
Moi, ben, si tu veux, peut-être un peu comme on parlait avant qu'on filme l'épisode, le mois de novembre, c'est un gros mois pour le niveau carrière, là, comment ça se passe et tout?
Oui, ben le mois, ce qu'on appelle le mois de la carrière, hein, le mois de novembre dans la faculté, qui est déjà bien entamé. Je pense que ce qui est important du mois de novembre puis du début du mois de décembre, c'est de regarder ce qui se place à chaque semaine, de regarder ce qui vous tente, puis ce qui rentre dans votre agenda. Puis, on disait tantôt, ça vaut-tu la peine de donner du temps à l'implication ou aux activités? Là, je dirais que novembre, c'est peut-être le mois là, où c'est le temps de faire une planification de votre agenda, là, un petit peu plus ajusté, là, et d'y aller pour aller à la rencontre des employeurs et tout. Puis, c'est beaucoup pour vous aider à voir de nombreuses opportunités. Puis, tu sais, on parle du mois de la carrière, c'est le mois de novembre, mais j'aurais le goût de dire, ça va aller jusqu'en janvier. Tu sais, quand on va revenir du temps des fêtes, le mois de janvier, là, le calendrier va être autant mm-hmm. garni que le mois de novembre. Et il va y avoir la journée carrière dans le mois de novembre. Fait que le mois de la carrière, c'est pas le mois de la course au stage, hein? On s'entend. Tous les comités à vocation professionnelle font des activités. Fait que oui, on a des cabinets, mais on a la fonction publique, on a la magistrature, il y en a de tout pour tous les goûts et pour tous les intérêts. Et dans ça, ben oui, hein, on parle de la course au stage parce que c'est un momentum de recrutement qui se place par la force des choses. Ouais. Et faut juste peut-être retenir que ben si la vision que vous avez, c'est de faire peut-être votre stage en cabinet, ben regardez les activités qui sont avec les cabinets en novembre, puis d'y aller pour avoir l'occasion de discuter avec des avocats pour être plus informés à propos des bureaux, mm-hmm. puis de qui ils sont, puis ce qu'ils font, puis ce qu'ils cherchent. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, là.
Puis, en gros, là, on sait c'est quoi, puis on sait pas c'est quoi. C'est quoi la course au stage?
C'est vrai qu'on sait c'est quoi, mais on sait pas c'est quoi. C'est en fait, si je recule, là, pour aller bien, bien basic,
mm-hmm.
le parcours de l'étudiante ou de l'étudiant qui veut devenir un avocat ou une avocate, là, c'est bien simple. On fait le baccalauréat au complet, on le réussit, on a notre diplôme. Après ça, on fait quoi? On s'inscrit à l'école du barreau, qui est dans une autre bâtisse, donc c'est pas à l'Université Laval, c'est un autre parcours académique où il faut réussir des examens, où on fait un parcours en clinique juridique et après, on a un stage obligatoire de 6 mois. à faire. Fait que tout le monde qui veut devenir avocat, avocate, va passer par ce chemin-là. Il y a, en grande majorité, à l'École du barreau, l'affichage de tous les secteurs d'activité puis de tous les employeurs pour que les étudiants puissent faire leur stage. Mais il y a une catégorie qui ont décidé, eux autres, de recruter leurs étudiants en avance. C'est ça qu'on appelle la course au stage. Donc, c'est un regroupement de grands cabinets privés qui, eux, ont pris la décision de se rallier par une entente dans laquelle il y a des conditions pour le processus de sélection et que, à partir de la deuxième année du bac, un étudiant peut participer à la course au stage. Fait que dans le fond, la course, là, c'est un processus de sélection où les cabinets font d'abord du réseautage, ensuite, ils reçoivent les dossiers de candidature des étudiants et ensuite, ils en invitent quelques-uns en entrevue pour leur offrir le stage du barreau, mais comme on disait tantôt, 2 ans en avance. Mm-hmm. Fait que si les grands cabinets, ça vous intéresse, la course au stage, c'est pour vous. Puis là, j'ai pas parlé de droit des affaires. Hein. Souvent, l'erreur qu'on fait, là, c'est « Ah, t'aimes le droit des affaires, fais la course au stage, attention! » La pratique en grand cabinet, parce que la majorité des cabinets vont vous faire faire des stages rotatifs, fait que vous allez essayer 2 puis 3 domaines, fait que soyez ouverts puis conscients de ça. Mais à la course se rallient aussi le ministère de la Justice, la CNESST. Fait qu'il faut aussi être sensibilisé à un momentum de recrutement 2 ans en avance.
Puis, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu, c'est les deuxièmes années souvent qui font leur course au stage, mais ça fait quoi si on la fait en troisième année, troisième année, c'est quand le bon moment de la faire? Les premières années ne peuvent pas la faire pour une raison de nombre de crédits, mais à partir de deuxième année, on peut. Fait que c'est-tu grave si moi, je la fais pas en deuxième année parce que c'est trop pour moi puis j'ai envie de la faire en troisième année, par exemple?
Je vais utiliser quelque chose de bien gros parce que je l'ai entendu déjà. Fait que je veux vraiment là, entendre ça. C'est faux de penser que c'est pas bon pour sa vie professionnelle et sa réputation de faire la course uniquement en troisième année. C'est faux de penser que tout le monde le sait, que vous étiez pas prêt en deuxième année puis que vous avez attendu. Fait que t'as raison, c'est une question de crédit. Puis ça, c'est bien écrit dans les ententes. Donc, pour les étudiants à l'Université Laval qui ont commencé leur bac en janvier et qui vont avoir cumulé 30 crédits, ils vont pouvoir participer à la course pour les cabinets à Québec. Et pour les cabinets à Montréal, ça prend automatiquement 36 crédits pour tout le monde. Fait qu'en bas de ça, je vous dirais « attendez à l'année suivante ». À moins que vous soyez à 3 crédits d'écart, puis que vous avez beaucoup, beaucoup réseauté, puis qu'il y a un bureau qui vous connaît beaucoup, puis qui vous intéresse beaucoup, bien là, vous pourrez peut-être prendre entente avec ce bureau-là là, pour voir si vous avez la possibilité de participer. Mais le nombre de crédits à respecter est important. Parce que les cabinets, là, c'est pas leur objectif de recruter les étudiants de première année. C'est pour ça qu'on commence avec un nombre de crédits. Si vous êtes en deuxième année puis que vous savez que les cabinets puis la pratique en privé, ça vous intéresse, là, c'est un bon momentum, c'est un bon moment pour l'essayer. Puis vérifiez là, par votre participation aux activités de réseautage, là, si vous êtes bien là, avec les avocats, là, puis que la discussion coule, puis que vous les trouvez inspirants, ça veut dire que c'est le temps de déposer. Si pour vous, c'est beaucoup plus une résistance qui se passe, de dire « Moi, je sens pas que je suis capable de prendre une décision par rapport à ça. Je pense que j'ai pas assez fait de cours. J'aimerais mieux y participer quand je le saurai vraiment plus. Si je suis prêt pour ça, attendez. » Il y a de plus en plus d'étudiants, de toute façon, qui la font en troisième année. Il y a des étudiants qui la font en deuxième année puis qui ont un stage. Il y en a qui la font en deuxième année, qui n'ont pas de stage, ils la refont, puis même des fois dans les mêmes bureaux en troisième année, puis qui ont un stage. Il y a des étudiants qui sont en troisième, maintenant on a des quatrièmes années même, qui la font, puis qui obtiennent un stage. Fait que l'idée, là, c'est de vous dire, est-ce que la pratique de ce type-là, dans ces environnements-là, ça me parle? Et si la curiosité vous fait répondre oui, si votre ambition vous fait répondre oui, c'est parce que c'est pour vous, sinon attendez.
Puis si, admettons, on est mêlé, on ne sait pas trop quel domaine on veut faire, est-ce qu'on devrait la faire quand même ou on est mieux d'attendre d'être prêt, d'avoir plus une bonne idée de ce qu'on veut avant de faire la course?
Bien, quand on est mêlé au point là, où on se dit on aime vraiment, vraiment tout ou on n'est vraiment pas sûr là, de se sentir à la bonne place, c'est peut-être le temps d'attendre, en fait. Par contre, si vous aimez plusieurs domaines de pratique, puis que vous avez parlé avec des avocats, puis vous savez que ces domaines de pratique-là sont dans le bureau, ça, pour moi, ça va être de découvrir votre vocation professionnelle une fois que vous allez être à l'interne. Pour moi, ça, c'est d'autres choses. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui est très curieux, qui aime le litige, le droit des affaires, le droit de l'immigration, le droit des contrats, le droit des assurances, je me disais, oui, mais tout s'aligne vers la pratique en cabinet quand même, par exemple, là. Mais quelqu'un qui aurait l'ambivalence entre le criminel pénal, le droit de l'enfance, puis le droit des affaires, là, je dirais, OK, ben on va peut-être prendre le temps de continuer d'évoluer là-dedans puis de trouver vraiment sa voie, là.
Puis, tantôt, tu en parles un petit peu, là, j'ai pas dit le droit des affaires nécessairement pour parler de la course au stage, mais on le sait que c'est quand même un domaine de droit qui est courant chez les cabinets qui participent à la course au stage. Mm-hmm. Peut-être plus comparé exactement, par exemple, le droit criminel.
Oui.
Fait que si je suis passionnée de droit criminel, est-ce que j'aurais fait la course au stage quand même?
Bien, en fait, ce qui est le principal à faire, là, c'est de regarder qui sont les signataires de l'entente de la course. Donc, tous les signataires sont représentants d'un bureau, là. C'est mm-hmm. simple comme ça. Et regarder si dans la liste, dans les deux listes, Québec-Montréal, est-ce qu'il y a des bureaux là-dedans qui ont des équipes en criminel? Si la réponse est oui, ben je viens de répondre à la question que c'est peut-être une avenue professionnelle ou postulée.
Mais... Il y en a en passant.
Il y en a.
Pas beaucoup, mais quelques-uns.
Il y en a. Donc, je vous dirais, faites-vous pas prendre avec ça en présumant que c'est le droit des affaires et rien mm-hmm. d'autre. Ce que vous aimez faire, vérifiez les domaines de pratique des bureaux des signataires. Probablement que le début de stage, ce ne sera pas uniquement ce que mm-hmm. vous aimez le plus, mais au moins, ça va vous permettre d'intégrer le bureau, découvrir quelque chose et éventuellement vous rapprocher vers l'équipe qui vous intéresse. Après ça, ce que j'aurais le goût d'ajouter à ça, c'est que par rapport à la course au stage, il y a les signataires de l'entente de la course, mais il y a aussi ceux que l'on appelle les amis de l'entente. Ça, c'est un peu embêtant, c'est un peu mêlant, parce qu'on n'a pas de liste hein, des ouais. amis de l'entente. Donc, les amis de l'entente, c'est tous les autres, en fait, qui ont fait le choix de ne pas signer l'entente pour qu'ils puissent réaliser leur processus de sélection à leur façon, dans le momentum qu'ils ont le goût et tout ça. Donc, pour reprendre ton exemple, quelqu'un qui est passionné de criminel pénal, ben moi, ce que je suggère, c'est de consulter les listes de bureaux et faire un ranking mm-hmm. des bureaux qui vous tentent le plus, dépendamment dans quelle région tu veux travailler, les bureaux qui t'allument le plus et tout. Et là, à ce moment-là, c'est de vérifier sur le site de l'École du barreau les affichages, parce que eux, les chances sont très grandes qu'ils affichent juste au barreau. Mais s'ils agissent en tant qu'amis de l'entente, ça veut dire que ça se pourrait qu'ils affichent un stage sur leur site à eux en même temps que la course au stage. C'est juste que les dates vont un petit mm-hmm. peu différer. Puis l'endroit où déposer le CV, bien, ce ne sera pas sur le portail de la course, ça va être sur le site web du bureau. Fait que si vous commencez déjà à savoir le domaine de pratique que vous aimez, puis que vous commencez à connaître quelques bureaux, surveillez leur site web, surveillez leurs réseaux sociaux aussi. Hein. Il y a de plus en plus de bureaux là, ils ont des pages LinkedIn pour le recrutement des stagiaires, ils ont des pages aussi sur d'autres réseaux sociaux, puis ils vous donnent de l'information sur le processus de recrutement. Fait que soyez alerte en ce sens-là, parce que c'est d'autres façons de recruter qui sont en parallèle du momentum de la course.
Là, on a parlé pour le droit criminel et pénal, mais ça, pour tous les domaines de droit, il y a d'autres cabinets en dehors de la course au stage qui fonctionnent de la même façon. C'est juste qu'on dirait qu'on parle plus de droit criminel parce qu'ils sont un peu à part, là, mettons, mmh. De la course et tout, mmh. mais d'autres cabinets en droit des affaires existent en dehors de la course aussi. Fait que, tu sais, le même processus à faire pour peu importe votre domaine.
Oui, oh oui, exactement. Puis c'est aussi de comparer hein, si c'est des instances, des ministères, des organismes communautaires, c'est exactement le même principe. Regardez les sites Internet de ces organisations-là parce que les stages vont apparaître dans un momentum qui va correspondre un peu au moment de la course au stage. Les dates de la course au stage ne sont pas secrètes, là. Fait que si les employeurs veulent s'assurer recruter de la relève en stage, bien, d'afficher des postes dans ce moment-là, c'est très stratégique pour eux autres.
Excellent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Parce qu'on tire déjà à notre fin.
Que c'est intéressant, hein?
Ça a bien été.
Quel beau sujet, oui.
On pourrait en dire pendant des heures, hein? Je t'écouterai en tout cas pendant des heures.
Ah, oh, ben mon... Oh, c'est gentil! Écoute, moi, je pense que ce qui est vraiment, là, Maïla, le plus important à dire aux étudiants, là, c'est oser croire en vous. Vous avez le talent, vous avez le potentiel, vous avez la personnalité, les compétences, la motivation, l'ambition qu'il faut. Si ce que vous aimez s'amène à un, deux employeurs, ben un, deux, on va faire une stratégie pour que vous y arriviez parce que c'est un projet qui est pour vous. Donc, osez croire en vous. Il y a des gens qui sont dans le marché, là, qui attendent un candidat comme vous.
Mm-hmm.
Fait que plus on s'assume, plus on se respecte, plus on est conscient de qui on est, plus on s'écoute dans nos intérêts, plus c'est intéressant de faire une stratégie qui nous amène à l'atteinte de notre objectif. Puis, ben l'autre chose, on est une communauté avec plein de monde puis plein de services. Fait que si vous êtes dans des impasses, vous êtes en réflexion puis que vous n'êtes pas certain de rien, parlez avec quelqu'un. L'exécutif de l'AED, hein, vous avez un super local avec la porte ouverte pour tout le monde où on peut aller s'asseoir, jaser avec vous autres, le personnel de la faculté, notre intervenante de proximité, moi, tous les étudiants qui sont impliqués sont toutes des ressources pour vous. Donc, je dirais, prenez action puis restez pas pris dans vos inquiétudes puis dans vos stress. Mm-hmm. Il y a quelqu'un à quelque part qui va vous ouvrir la porte, dont moi, puis qui va vous écouter par rapport à ça, puis qui va s'assurer là, que vous atteignez vos objectifs. Fait que,
hey, ben merci mot de la fin. Puis tu sais, en tant qu'étudiante, là, moi, n'hésitez pas. Puis Dominique a fait tellement une différence dans notre parcours parce que c'est un milieu spécial, unique. Quand tu connais pas ça, puis tu arrives à l'université, puis tu n'as jamais rien eu en droit, tu n'as pas de parents en droit, c'est gros, ça fait beaucoup, puis c'est normal qu'on s'en est perdu. Puis en tout cas, moi, pour moi, Dominique a fait toute la différence, puis tu sais, ça a été une ressource primordiale, fait que je la conseille à absolument tout le monde. Tout le monde devrait consulter Dominique.
Oh, merci pour les bons mots, ça fait super plaisir.
Et là, pour ça, fait que si vous êtes perdu, premièrement, c'est normal, puis deuxièmement, ben vous êtes chanceux d'une solution, Dominique est là pour vous aider. Fait que, tu sais, passez pas à côté, moi, c'est tout ce que j'ai, ce que je dirais, mettons.
Et puis bon succès hein, à tout le monde pour la suite des choses.
Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Fait qu'on on se revoit au prochain épisode.
Merci.
Bye.
Bye bye.
Yeah!